Bonjour, ici Gras pour les Dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021, dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les Dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes, et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers les représentations biaisées qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour cet épisode, nous sommes avec Alexandre Changenet, membre du Cortex et cycliste, entre autres. Bonne écoute et que le doute soit avec vous.
Petit test micro.
Bonjour, je suis Alexandre Changenet.
Ouais, c'est bon.
C'est bon, cool.
Eh ben, salut Alex, merci d'être avec moi pour l'interview ce matin.
Salut David.
Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais et pourquoi on est là ?
Oui, je peux faire ça. Donc, je suis Alexandre Changenet. J'ai une double casquette. La première, c'est que je suis un doctorant, enfin je suis bientôt plus un doctorant d'ailleurs, mais j'étais doctorant à l'université de Bordeaux dans un laboratoire qui s'appelle Biogeco, qui a une UMR INRAE, et donc je travaillais sur l'écologie des forêts avec des approches de modélisation statistique. Les questions qui m'intéressaient, c'était en gros... Que se passe-t-il dans le bassin méditerranéen en termes de mortalité des arbres et de régénération des forêts, en quelque sorte ? Notamment, quel est l'impact des sécheresses récurrentes et ce genre de choses sur la composition des forêts là-bas ? Est-ce qu'il y a des espèces qui prennent le dessus sur d'autres, etc. Voilà. Bon, je pense qu'on ne va pas trop s'étaler là-dessus dans l'interview. Voilà, donc ça, c'est ma première casquette, on va dire, de jeune chercheur, de scientifique, quoi. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis membre du collectif Cortex depuis 2016, je crois. Depuis 2016, j'ai rejoint le collectif Cortex, collectif de recherche transdisciplinaire en esprit critique et en sciences. Voilà, et donc peut-être que je peux présenter le collectif, j'imagine.
On y reviendra un petit peu après.
Ok.
Avant, je voulais te demander, toi, où est-ce que tu te situes dans la sphère sceptique ?
Tu veux dire de manière générale ou à l'instant T ? Parce que je dirais que j'ai un placement qui a été évolutif. J'aurais du mal à me placer, mais je pense que je peux te donner peut-être une trajectoire. On peut peut-être faire ça de manière un peu historique, on va dire, parce que moi, historiquement, j'étais plutôt quelqu'un que je qualifierais de peut-être scientiste, en fait, à un moment. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un gros mot, scientiste, mais en tout cas, je n'hésitais pas à parler de sciences molles et de sciences dures, alors qu'aujourd'hui, j'hésiterais beaucoup plus à parler de ça. Voilà, jusqu'à mes cours d'autodéfense intellectuelle auxquels j'ai assisté en deuxième année à Montpellier. Cours de Guillemette Reviron, donc une ancienne membre du collectif Cortex, qui m'ont un peu ouvert les yeux, je sais pas si j'avais besoin d'ouvrir les yeux ou quoi, mais en tout cas qui m'ont apporté énormément, qui ont complètement changé ma vie et ma vision des choses et ma vision des sciences et ma vision du scepticisme. En fait, je pense qu'à cette époque j'étais un sceptique, on va dire extrémiste, si je peux dire ça comme ça, et sans vraiment le savoir et sans pouvoir me situer. Et depuis, mon placement n'a fait que de changer. Et donc je dirais que aujourd'hui, si je devais me placer dans la sphère sceptique, je sais pas si je pourrais mettre plusieurs axes dans le monde du scepticisme. Je sais pas trop c'est une bonne réponse à cette question ou pas, mais je dirais que je fais partie des gens qui pensent que la pensée critique et les outils de l'autodéfense intellectuelle ont une portée politique, et je pense que je dirais même qu'ils doivent avoir une portée politique. En fait, ce sont des outils qui sont politiques en soi, puisque quand on transmet l'esprit critique, il y a une vocation de changer le monde, en fait. Enfin, il y a vocation à transformation sociale. Donc, je pense que je me placerai dans cette partie-là de la sphère sceptique, parce que je pense qu'on peut dire qu'il y a des gens qui ne pensent pas ça dans la sphère sceptique. Alors, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs la sphère sceptique, mais j'imagine que c'est tous les gens qui gravitent autour de l'esprit critique, que ce soit enseignants, vulgarisateurs de l'esprit critique, on va dire tous les collectifs qui peuvent exister, j'imagine que c'est ça, et peut-être les cercles militants aussi, je ne sais pas si on peut les inclure là-dedans. Mais voilà, mon premier positionnement, on va dire, si je devais me placer, ce serait ça. Je pense que je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une portée politique à ce qu'on fait. Voilà, et donc je sais pas si je pourrais ajouter d'autres dimensions. Si, on va dire un positionnement sur le plan des sujets traités. Moi, de par mon expertise de recherche, on va dire, les sujets qui m'intéressent, en fait il y en a plein qui m'intéressent, mais les sujets sur lesquels, on va dire, j'ai une expertise sceptique en quelque sorte, ça va plus être des sujets liés aux sciences biologiques, mais plutôt, en fait, je m'étais un peu axé plus sur l'agronomie, ce genre de questions, et tous les aspects statistiques, on va dire, même si, en fait, j'aimerais me former sur tout un tas de sujets, notamment des sujets plus liés aux sciences politiques, etc., sur lesquels j'ai peu d'expertise. Donc voilà, sur le plan des sujets, je me situerai là. Sur le plan de pourquoi on fait de la pensée critique, un peu, voilà, j'ai un peu décrit mon placement. Je sais pas si je peux ajouter quelque chose d'autre. Je vois rien ajouter pour l'instant.
Est-ce que, en plus de ton placement dans la sphère sceptique, tu as une opinion sur la sphère sceptique, quelle que soit la manière dont on la définit, parce que comme tu l'as dit, c'est dur à définir.
Est-ce que j'ai une opinion? Qu'est-ce que t'entends? Bah, est-ce que j'ai une opinion? Est-ce que je trouve qu'elle est trop comme ça ou trop comme ci,
oui.
Ou je pense qu'elle devrait être plus comme ça, ou
oui,
qu'elle
là,
devrait être plus comme ça? Alors, tout ce que je vais pouvoir dire, enfin, je parle pas au nom du cortex, parce que je pense qu'on aurait tous des avis un peu différents. Donc, ce que je dis n'engage quand même que moi, enfin, pour l'immense majorité, je pense. Et donc, qu'est-ce que je pense de la sphère sceptique? Je pense que, voilà, en écho à la première question et à mon positionnement à moi, je on va dire, regrette qu'il n'y ait pas plus de gens dans la sphère sceptique qui partagent mon positionnement sur le fait que les outils de l'autodéfense intellectuelle sont, on va dire, des objets politiques, je pense. Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit un avis majoritairement partagé dans la sphère sceptique, et peut-être que je me trompe, mais si je me trompe, je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Enfin, par beaucoup de gens de la sphère sceptique, je trouve que c'est regretté. Enfin, je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils devraient faire ou pas, mais je regrette que ce soit globalement, en fait, la sphère sceptique est un endroit où un réplica de toutes les tares sociales qu'on peut avoir dans le monde normal, si j'ose dire. Enfin, je veux dire, non, mais enfin, ce que j'entends par là, c'est que, au final, la zététique, on va dire, donc là, je réduis un peu la sphère sceptique peut-être à la zététique, mais je trouve que c'est quand même un truc de mecs blancs, hétéros, qui ont des diplômes, quoi. Globalement, j'ai l'impression que la sphère sceptique se réduit pas mal à ça. Je trouve ça regrettable, je dis pas, bah, ce serait cool si ça pouvait être différent. Et l'autre truc du coup qui est regrettable, c'est que je pense que là, ce que je viens de dire n'est pas trop questionné, je trouve, dans la sphère sceptique. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ce constat, je sais pas en fait s'il y a des gens qui le font. Donc je trouve que c'est regrettable, je pense qu'il y a... Ouais. Les gens se posent pas assez cette question, et donc du coup ne se demandent pas trop comment ça pourrait être changé, mais je pense qu'en fait, si le constat est pas fait, on peut pas vraiment trop questionner ça. Et de manière un peu parallèle, je pense, donc pareil, par rapport à, en fait, pour revenir sur la première question et sur les sujets traités, je pense qu'il y a un peu la même chose sur les sujets qui sont traités dans la sphère sceptique. Il y a une sorte de, on va dire, d'invisibilisation peut-être de certains sujets qui est volontaire ou qui n'est pas volontaire, mais c'est juste que j'ai l'impression En fait, enfin, c'est pas une impression. Je pense que choisir de traiter certains sujets plutôt que d'autres, c'est partial. On fait un choix qui nous range du côté de certaines personnes ou pas en fonction de ce qu'on va critiquer ou pas. Et je déplore qu'il y ait plein de sujets, notamment en sciences sociales, etc. Donc ce que je disais avec le fait que, par exemple, la zététique, pourquoi c'est un truc de mec blanc, hétéro, éduqué. Bah, par exemple, pourquoi les gens ne se saisissent pas de ces enjeux-là, pourquoi on se saisit plus souvent du paranormal et de ce genre de trucs, ou pourquoi on se saisit plus souvent des OGM ou ce genre de questionnements. Et voilà, et avec tout ce que ça peut avoir comme retombée derrière, à savoir, bah, en fait, quand on s'intéresse aux OGM, bah, en fait, automatiquement, ça nous place sur un échiquier politique, en fait, qu'on le veuille ou pas, faire le choix de critiquer les discours anti-OGM, par exemple, ou les discours anti-nucléaire, ou je ne, que sais-je encore, ça nous place du côté... D'autres gens, enfin, en fait, en gros, on fait un peu leur jeu, quoi. Donc, je déplore que, enfin, je sais pas si en fait les gens dans la sphère sceptique se posent ces questions de base, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas assez posées. Parce que je pense que si elles étaient plus posées, on n'aurait pas le même décor à la fin. Mais bon, une fois de plus, je dis ça parce que nous, on essaye, enfin, en tout cas, moi, j'essaye de me poser ces questions-là. Et du coup, j'ai mon avis sur la question et je sais de quel côté de l'échiquier j'ai envie de me placer régulièrement. Et voilà. Et en fait, je sais pas, je suis pas dans la tête des autres, donc peut-être que en fait, ils se posent ces questionnements et ils ont pas de problème à se retrouver d'un côté ou de l'autre de l'échiquier. Mais moi, mon sentiment perso, c'est quand même que c'est pas assez posé. En fait, j'ai quand même l'impression que c'est pas une question qui est. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se posent pas cette question, en fait, qui n'ont pas vraiment conscience de ce truc de choisir de traiter des sujets plutôt que d'autres nous met dans une position vis-à-vis du public de voilà, puis nous place en fait politiquement en fait quelque part, je pense. Voilà.
Bah, tout à fait d'accord avec ce constat. En plus je précise que là on est deux mecs blancs cis hétéro valides autour du micro. Alors, par rapport à tout ce que tu as dit, bon, là, c'est peut-être être plus spéculatif, mais est-ce que tu as des hypothèses de pourquoi on est quasiment tous des mecs cis blancs hétéro valides ? Pourquoi c'est tout le temps les mêmes sujets qui sont repris ? Donc, tu en as évoqué, nucléaire, OGM, tout ça. Pourquoi on évite le politique, on évite de se poser des questions ? Et est-ce que tu aurais des pistes de comment faire pour changer tout ça ?
Okay.
Ou au moins qu'on se pose la question.
C'est un vaste sujet.
Ouais, carrément. Ouais.
Bing, 4 questions en une. Alors attends, je vais essayer de les faire une par une.
Donc pourquoi on est tous les mêmes ?
Hypothèse, pourquoi on est tous les mêmes ? Donc effectivement, putain, c'est très spéculatif et j'ai jamais trop réfléchi à ces questions. Pourquoi on est tous les mêmes ? Parce que je dirais que en étant de ce profil-là, donc des mecs blancs, hétéros, valides. Ouais, bon, de toute façon, on est dans le spéculatif, donc je peux bien faire une hypothèse aussi fausse soit-elle, que on n'a jamais été confronté à, je pense, à des discriminations, en fait, quelles qu'elles soient. On n'a jamais été, en fait, des gens opprimés, de par notre statut social et notre position. Et qu'on n'est pas de fait, ça nous exclut de plein de luttes, mais enfin pas parce que parce qu'on peut pas y prendre part, mais parce que je pense qu'il n'y a pas eu cet intérêt, parce qu'on peut se permettre de ne pas avoir à choisir d'autres combats, quoi. Je veux dire, on peut, je pense que en fait, on a le privilège de pouvoir faire de la zététique et de choisir un peu les sujets qu'on veut, bah parce qu'on est des mecs blancs, etc. Et en fait, on n'a pas à se soucier d'autres trucs, en fait. Je dirais peut-être. Peut-être que on n'a pas à se soucier de tous les mecs qui peuvent te siffler dans la rue. Peut-être qu'on n'a pas à avoir affaire avec, je sais pas, le racisme généralisé, avec tous les types d'oppressions qui peuvent exister. En fait, je pense qu'on a une méga charge mentale, si je peux dire, en moins, en fait, je pense, inquantifiable, en fait, dont on se rend même pas compte, puisque de toute façon, on ne vit pas ces trucs-là. Ce qui nous laisse la place de faire ça, et on a l'impression que c'est cool, et je pense que c'est très cool, et du coup, enfin, ouais, moi, ma réponse, c'est ça, et je pense que si on demandait à des militants, bon, en fait, un peu tous les milieux, peut-être des militants... antisexisme ou je sais pas, antiracisme, etc. Peut-être que si on leur posait la question inverse, est-ce que on leur demandait vous pourquoi vous faites pas de la zététique, bah, peut-être qu'ils diraient bah les gars, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à foutre quoi. Je pense qu'on a, on a d'autres chats à fouetter, et je pense que la réponse c'est peut-être ça, c'est que nous on n'a pas d'autres chats à fouetter en fait. Enfin, on pourrait en avoir, mais c'est pas urgent parce qu'on n'est pas exposé. Peut-être que c'est. Une des pistes, en fait c'est un peu la seule que je vois, mais donc il y a ça, et bon, et je pense que l'autre, mais qui est un peu lié, hein, je pense que une des raisons pour laquelle les gens font de l'esprit critique de manière générale, alors pas trop la partie enseignement, je parle plus de faire des contenus et de traiter certains sujets, etc. Je pense qu'il y a une partie, on va dire, jouissive, ou en tout cas, enfin jouissive peut-être pas, mais il y a une part de plaisir à avoir plus raison que plus tort, qui est gratifiante. Enfin voilà, enfin c'est pareil pour tout le monde, je pense. De manière générale, les gens aiment bien avoir raison, quoi. Mais donc du coup, le lien avec la première partie de ce que j'ai décrit, c'est que oui, on peut se permettre, de par notre statut, de se focaliser sur ça, de se permettre sur voilà, sur se faire plaisir en quelque sorte, parce qu'il y a pas trop d'autres trucs qui empêchent ça en amont, quoi. Il y a pas d'autres combats avant à mener, quoi. Donc je pense que c'est ça. Et par contre, question sous-jacente que je pose ouvertement, comment on pourrait tester ça? Comment on pourrait mettre à l'épreuve mon hypothèse là? Bon, déjà, faudrait la formaliser parce que j'ai fait une hypothèse qui a duré 5 minutes à peu près. Mais ce serait intéressant, ce serait en fait assez marrant de regarder.
D'où l'utilité d'avoir des sociologues qui s'intéressent à la communauté sceptique.
Ouais, peut-être.
Là, je peux renvoyer la dernière émission de Scepticisme Scientifique. Ils interviewaient Paul Colin.
Ah bon, ils interviewaient Paul Colin?
Oui.
Ah, trop marrant.
Est-ce que là, ce que tu viens de décrire, c'est un lien avec le fait que c'est tout le temps les mêmes sujets qui tournent en boucle?
Bah, en fait, j'allais dire de base non, mais du coup, je pense qu'il y a un petit lien qui m'a l'air obvious, c'est que au final, oui, vu que c'est des trucs qui sont un peu invisibilisés pour nous, donc nous, hommes blancs hétéro-valides, je pense que, ouais, on va pas vers des sujets, peut-être que c'est des sujets qui nous paraissent moins importants, moins marrants, et que voilà, on voit pas l'importance. Je pense que ouais, il y a une invisibilisation du statut que peuvent avoir ces grandes questions, bah, de féminisme, d'égalité sociale, tout ça. Je pense que il y a plein de gens qui pratiquent le scepticisme, on va dire, qui le font avant tout, je pense, par plaisir, pour ressentir du plaisir, comme je disais. Et en fait, peut-être que du coup, bah, ils ont pas envie de s'emmerder avec. Enfin, je dis ça pas pour être grossier, et c'est pas non plus un reproche, hein, mais je pense que les gens ont pas envie de s'embêter avec des sujets qui, à mon avis, seraient plus complexes, plus longs à traiter, avec des enjeux sociaux forts. Et je pense qu'il y a moins d'enjeux avec certains sujets qui sont traités. Alors là, je parle plus genre du paranormal, je dirais, plus que du nucléaire ou des OGM, etc. Mais donc je pense que ouais, une des raisons, c'est ça, quoi. Puis peut-être qu'il y a un truc de on fait l'autruche, on n'a pas envie de voir vraiment ces trucs là on a peur, peut-être qu'il y a une partie en fait j'ai pas envie d'aller vers ces sujets parce que j'ai peur, quoi, de découvrir des trucs qui me plairaient pas, et que ça générerait énormément de souffrance, et peur de ce qu'on pourrait découvrir, peut-être, je sais pas. Alors que ceux qui traitent du paranormal, peut-être. Le seul truc qu'ils risquent de découvrir qui puisse leur faire peur, c'est genre des extraterrestres, ou je sais pas. Non, je rigole, mais... Non, je pense que le retour de bâton dans le cas où on s'intéresse à des sujets, on va dire, sociétaux, politiques forts, je pense que le retour de bâton, c'est de se prendre la réalité sociale dans la gueule, et je pense que ça peut faire super mal, quoi. Voilà. Même pour des gens qui sont pas concernés au premier plan. Donc... Ouais, pourquoi c'est ces sujets-là qui reviennent? Franchement, dur à dire, j'imagine. Alors, faudrait demander à effectivement des sociologues et peut-être même des historiens qui pourraient regarder les mouvements sceptiques, etc., au cours du temps. Mais une des hypothèses, ce serait peut-être qu'il y a une filiation historique aussi, hein, dans les sujets. Peut-être que, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu des sujets, donc là je repars sur le paranormal, mais qui sont historiquement très liés à la pensée critique et à la zététique. Et donc je pense qu'il y a un poids historique qui ne doit pas être négligeable dans les travaux qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de filiation historique comme ça. Ça ne me surprendrait pas, quoi. Que, voilà, vu que ça a été un truc historiquement fait en majorité, des sujets traités majoritairement, voilà, ça me semblerait normal que, à la suite, l'héritage de ça, bah, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent plus à ces sujets qu'à d'autres, quoi. Donc il y a ça, et après, donc les autres questions, c'était...
Pourquoi on évite les sujets politiques? Mais c'est un peu lié à ce que tu viens de dire.
Ouais, je pense que j'ai un peu répondu.
Même dans les sujets qui sont évoqués, enfin, quand c'est pas du paranormal, même si c'est le nucléaire, les OGM, qui sont quand même des enjeux sociaux très
Ouais,
forts, où on pourrait se prendre un
c'est
retour de
vrai.
bâton politique en les creusant,
On pourrait.
j'ai l'impression qu'il y a une tendance à explorer que certains aspects de ces questions.
Exactement.
Donc, par exemple, traiter les OGM sous la question de la biologie et de l'agronomie, de
Ouais.
la technique, et tous les enjeux sociaux sont éludés.
Exactement. Je pense que, bah, du coup, je suis pas du tout le mieux placé pour parler de ça, et je pense que, genre, à mon avis, Gabriel Pallarès, par exemple, pourrait beaucoup parler de ça, lui qui s'intéresse un peu aux questions, je crois, les questions socialement vives, les questions scientifiques socialement vives et tout. Où en fait, je pense que c'est des questions qui sont multidimensionnelles, mais avec vraiment beaucoup de dimensions, et qui, quand elles sont traitées sous l'angle du scepticisme, sont réduites à quelques dimensions, en fait, et des dimensions souvent d'efficacité, des choses comme ça très palpables, en fait, je pense. Et il y a un peu une omission de toute la dimension sociale qu'il peut y avoir avec, je pense que, ouais. Donc, mais par contre, pourquoi? Mais je pense que c'est un peu il y a un peu une question de filiation historique aussi, hein. Je pense que quand même la zététique et les outils de la pensée critique, il y a beaucoup ce truc de on va regarder si c'est efficace ou pas.
Pour enchaîner là-dessus avec la prochaine question, ça pourrait être des idées de pistes pour changer les choses, donc pour que ça soit pas tout le temps les mêmes gens qui fassent du scepticisme, que ce
Ouais.
soit pas tout le temps les mêmes sujets, ou alors que les mêmes sujets soient traités de manière différente, en se posant pas les mêmes questions.
Ouais.
Voilà, je sais pas si t'as des idées pour changer ça.
Des idées pour un peu le lien avec les trois trucs d'avant, pour que
Ouais.
ce soit d'autres gens, pour que
Ouais.
ce soit d'autres sujets. Pour que ce soit d'autres gens, en fait, je sais pas si au final, si les deux questions peuvent être découplées, d'autres gens et d'autres sujets, parce que peut-être que du coup, en diversifiant les sujets, ça amènerait d'autres gens, simplement. Et donc, du coup, est-ce que j'ai des idées de comment on pourrait changer ça? Je crois pas que on va réussir à amener des nouveaux gens vers la zététique et la pensée critique telle qu'elle est en ce moment. Je pense que c'est plus aux gens de la sphère sceptique de faire le pas vers d'autres gens, je dirais. D'aller vers les militants de tous bords, en fait, je pense. Et je pense qu'il y a un peu un travail de main dans la main à faire avec ces gens-là qui, en fait, n'ont pas besoin de la sphère sceptique, en fait, enfin, ils n'ont jamais eu besoin, et donc en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont militants et qui, du coup, enfin, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui font un travail de pensée critique de l'ombre, sans étiquette de pensée critique, et qui sont juste des militants, enfin, je dis juste avec des grosses guillemets, qui sont des militants, qui s'estampillent pas à esprit critique, mais en fait, ce qu'ils font, c'est complètement de l'esprit critique, et ces gens-là, n'ont pas besoin des gens de la sphère sceptique, parce que, pour tout ce qu'on a dit avant, c'est toujours les mêmes, etc. Donc ils n'ont pas besoin de venir voir ces gens-là, et je pense que si on veut changer les choses, je pense qu'un bon début, ce serait que les personnes de la sphère sceptique aillent d'elles-mêmes vers d'autres sujets et interagissent plus avec des militants, etc. Mais comme je le disais, pour toutes les raisons évoquées, je pense que c'est compliqué. Et parce qu'on n'est pas, de manière générale, pas trop concerné par tous les systèmes de domination là, dont on a parlé. On se retrouve toujours du côté des dominants. Donc, prise de conscience difficile, je pense. Et difficile de faire le pas, du coup, et d'aller se retrouver dans d'autres cercles plus activistes, etc. Où je pense qu'au final, les gens qui font de la pensée critique, de manière générale, on est un peu dans une petite bulle confortable voilà, il y a un petit côté un télo où en fait on se mouille pas trop enfin on se mouille pas trop dans le sens je pense que faire de la zététique et de la pensée critique, il y a un côté on met pas trop les mains dans le cambouis quoi. On s'attaque pas vraiment au mal comme peuvent le faire plein de militants de plein de cercles. Et donc je pense que il faudrait en fait, mettre les mains dans le cambouis, peut-être, ce serait peut-être ça la solution. Donc, je pense pas qu'on va faire venir des gens, des nouveaux gens, vers la zététique et la pensée critique. J'utilise un peu les termes de manière interchangeable depuis tout à l'heure. Donc, en fait, je parle de la sphère sceptique, de manière générale. Ouais, le mouvement doit plutôt venir de l'intérieur et aller vers l'extérieur, en fait. Ça devrait plutôt se faire comme ça. Après, peut-être que je peux me tromper, mais en fait, j'ai un peu du mal à visualiser un truc qui se passerait dans l'autre sens, en fait. Disons que je ne vois aucune raison pour que des militants, par exemple, donc du coup des gens, alors les militants pour moi de tous bords qui font du coup de l'esprit critique sans vraiment le dire, sans peut-être des fois sans le savoir ou quoi. Voilà, c'est à ces gens-là que je pense, donc qui font de l'esprit critique déjà sur d'autres sujets en fait. Je vois pas pourquoi ils viendraient vers la sphère sceptique actuelle vu tout ce qu'on a dit avant, quoi. Voilà, une réponse très longue pour dire quatre fois la même chose, mais ouais, je crois que la conclusion c'est un peu ça. Je dirais que ça doit venir de l'intérieur.
Si on vient à un sujet où là tu as plus, disons, d'expérience de terrain, enfin je suppose, des formations à l'esprit critique. Il se trouve que toi tu as donné des formations ou des cours à l'esprit critique. C'était dans quel cadre et à qui?
Alors, il y a eu plusieurs couches, on va dire. Mais début au Cortex, j'ai fait plusieurs interventions. J'intervenais avec des lycéens essentiellement. Je l'ai fait un peu les dernières années, là, les 3-4 dernières années. Je suis un peu intervenu dans un CFA là, à la Teste, et aussi dans un collège à Pessac. Donc en milieu, on va dire, scolaire, récemment, j'ai fait que ça, comme public, donc plutôt des jeunes publics, lycéens, collégiens. Ça a été un public important pendant un moment, mais là, le gros de mon taf de formation récemment, c'était avec les profs. Ça durait 4 ans ou 3 ans. On a fait une formation donc avec les gens de la main à la pâte et une action qui était menée initialement par le rectorat de Bordeaux. On travaillait avec les profs, en fait. Les profs, essentiellement, c'était des profs de sciences. Donc biologie, physique, maths, et il y avait les profs documentaristes aussi. Et donc c'était une formation de 2 jours qui s'appelait Comment enseigner l'esprit critique. Donc du coup mon public c'était un public de profs de collège et de lycée. Donc j'ai fait pas mal ça récemment, et en parallèle j'ai eu pendant 2 ans ou 3 ans l'opportunité de faire un peu des enseignements, enfin un peu, de faire même des contenus entiers hein, sur les thématiques de l'esprit critique avec des étudiants à la fac niveau Master 1 et Master 2. Même si j'essayais de diluer un peu de l'esprit critique dans mes cours de stats en L3 aussi, enfin j'en mettais toujours, mais c'était plus des petites billes par-ci par-là, des trucs du type corrélation, causalité, enfin en fait surtout c'était très approprié dans les cours de stats quand on fait les tests de corrélation et les trucs comme ça. Donc je me privais pas d'essayer de diluer un peu de contenu d'esprit critique là-dedans. Voilà, donc les gros publics récemment ça a été ça, a été les profs et les étudiants de fac. Voilà.
Et quel retour t'as eu là-dessus? Comment tu sais comment ces notions sont appropriées, comment elles sont réutilisées. Moi, je me pose tout le temps cette question, un peu quel que soit l'enseignement, mais quand on bosse avec des groupes qu'on ne revoit pas forcément sur le long terme, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça devient ?
Bah ouais, c'est une super bonne question. Et je pense que c'est une question que tout le monde se pose, enfin dans les gens qui font de l'enseignement. Alors moi, à titre personnel, quels sont mes retours, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça devient? Je ne sais pas. Enfin, dans le cadre de la formation avec les profs, c'est un peu différent parce que c'est pas vraiment organisé par moi. Et donc les retours, on les a par les deux personnes de la main à la pâte qui, elles, essaient de prendre le max de retours sur la formation. Mais en fait, on a un truc, une image très partielle et instantanée de ce qui s'est passé. Donc on a des retours des gens, et mais en plus hyper voilà, enfin les gens qui ont trouvé que c'était super nul, je pense qu'ils répondent même pas au questionnaire, quoi. Donc voilà. Bon, après on avait beaucoup de retours qui étaient tous positifs. Comment les gens, ça, parce qu'en fait l'enjeu quand même avec les profs, c'est comment ils arrivent à s'approprier les outils ensuite et comment ils arrivent à les utiliser dans leurs cours. En fait, c'est vrai qu'immédiatement après les formations, les gens sont de manière générale hyper, hyper contents, hyper chauds, hyper motivés. La deuxième année, on avait essayé de... Enfin, on avait essayé, c'était une des personnes à qui on faisait ça de la main à la pâte, qui voulait qu'on organise un suivi avec tous les profs et qu'on monte des projets en fait, avec des élèves. Ce qui aurait été super chouette, et en fait ça n'a pas pu se faire, je crois à cause du Covid, c'est un peu tombé à l'eau. Donc ça aurait été un super moyen, je pense, d'avoir du suivi, quoi, parce que en gros l'idée c'était vraiment qu'ils essaient de remobiliser certains des outils que j'avais donné avec en cours avec les élèves, et qu'il y ait un suivi régulier derrière et un échange avec moi et avec les gens de la main à la pâte, pour qu'on puisse voir comment ça se passe avec, à la fin, de la création de contenu. Donc ça aurait été super. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai pas beaucoup de retours. Et qu'est-ce que deviennent les outils que je donne? Est-ce que c'est remobilisé, réutilisé? C'est assez compliqué à dire. Et moi, j'avoue que je n'ai pas fait l'effort de demander... Enfin, j'essaie de demander aux étudiants des retours. Je crois que je l'ai fait. J'essaie de faire ça parce que, enfin, en plus le truc c'est que oui, les étudiants sont évalués de manière continue, et par contre les profs qui les enseignent, des fois qu'en plus qu'enseignent de manière pas ouf, sont eux jamais évalués, on questionne jamais leurs enseignements et tout, donc je trouve que c'est un peu nul. Mais du coup, parce que en fait l'enjeu il est quand même pas sur l'immédiateté du truc, de est-ce que le cours c'était bien ou pas. Je pense que là les enjeux profonds c'est quand même vraiment sur est-ce qu'il y a une transmission sur le long terme. Bah franchement, j'ai pas trop, moi à titre personnel j'ai peu de moyens de faire ça. Je pense que ce serait super d'interviewer Denis Carotti là-dessus, qui aurait plein de choses à dire vu qu'il fait un peu sa thèse sur ça, et ils font plein de protocoles expérimentaux où ils testent, alors c'est pas trop ils testent pas genre si le cours était bien, mais ils testent l'efficacité de la transmission de certains outils avec différentes méthodes pédagogiques, etc. Donc ça, c'est super, quoi. Enfin, d'ailleurs, Denis Carotti et Eva Vive, qui vient de rejoindre le Cortex cette année, qui est à Marseille aussi, comme Denis, et qui fait sa thèse en... Elle est en quoi ? Elle est en neurosciences, je crois, et psychologie du langage ou un truc comme ça. Je crois peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Mais en fait, en tout cas, je sais qu'elle a bossé avec Denis sur ce genre de questions, pour monter des protocoles et tout. Et donc, je crois que... Enfin, je connais mal la littérature sur le sujet, et donc en fait, et en plus, je l'ai pas trop fait sur le long terme. J'ai pas trop essayé d'évaluer et de suivre comment c'était réutilisé ce que j'avais pu transmettre. Mais il y a des gens qui commencent à avoir des réponses, en tout cas, quoi. On commence à avoir une image un peu plus claire de comment enseigner l'esprit critique, comment faire en sorte que ce soit maximisé. Alors évidemment, ça veut pas dire que c'est acquis par tout le monde et que ce sera réutilisé par tout le monde, etc. Enfin, c'est comme partout, je pense. C'est ce qu'on se dit. Enfin, moi, ce que j'aime me dire, c'est que, bah, en fait, dans mes enseignements, si ça a pu faire émerger quelque chose, faire prendre changer peut-être des réflexes de pensée chez certaines personnes, faire tilt et se dire ah oh, putain c'était trop bien et bam complètement shifté comme en fait comme ça a pu faire avec moi il y a très longtemps et que j'ai eu les cours avec Guillemette Reviron et j'ai eu une espèce de révélation quoi complètement qui a ouais qui m'a un peu bouleversé quoi ça m'a complètement enfin j'ai dit ça après coup mais en fait ça a été un truc complètement graduel mais ça a changé ma vie en fait quand même et donc je me dis que voilà peut-être moi si j'étais la personne sur 100. En fait, même si c'est ça, bah, si moi j'ai pu changer un peu, enfin, ou changer, c'est peut-être un grand terme, quoi, mais on va dire être utile à au moins une personne, bah, ce serait cool, quoi. Et j'espère que ça a été le cas, mais j'ai peu de moyens de le savoir, malheureusement.
Ouais, bah, tu parlais de Denis Carotti ou d'autres personnes qui évaluent justement l'efficacité de ces enseignements. Bah, je voulais te demander un peu ça. Alors même si tu n'as pas de vraies grosses réponses, dans quelles conditions est-ce que c'est efficace? Est-ce que par exemple l'intervention que tu faisais en master qui dure 6 heures, est-ce que 6 heures c'est suffisant pour s'approprier un outil ou faire un shift comme tu dis?
Bah, en fait, je pense qu'un shift ça peut arriver vite en fait. Hein. Je pense qu'il suffit d'un truc qui te. Enfin. Un truc hyper intéressant, enfin, je sais pas, je pense que moi j'en ai eu un peu dans ma scolarité, dans mon parcours universitaire, des cours où t'as une espèce de révélation, un peu de. Ça chamboule un peu tout ce que tu peux avoir. En plus, d'ailleurs, j'ai peut-être un ou deux exemples que je peux donner, je sais pas si ce sera intéressant, mais je crois qu'il y a eu deux grands. Enfin bon, après le bouleversement de ce que j'ai pu vivre quand j'étais en L2 et les cours de Guillemette. On va dire que en M2, j'ai eu un grand bouleversement quand on a eu un cours de statistique bayésienne. On avait eu toute ma scolarité des cours de stats fréquentistes. Et là, on a eu 2 heures de stats bayésiennes. Et en fait, tu découvres soudainement qu'il y a autre chose qui existe, quoi. Et donc, ça m'avait un peu bouleversé. Et l'autre grand truc qui m'avait bouleversé, donc j'ai un parcours plutôt de biologie évolutive. J'avais eu un cours en M1. À Toulouse, c'était dans un module qui s'appelait diversité des formes et des phénotypes et on avait eu un cours d'épigénétique enfin en fait ça m'avait fait prendre conscience qu'il y a des caractères qui sont acquis et qui sont héritables quand même et donc notamment des expériences sur la transmission de la peur chez les souris qui sont ouf, enfin bon les expériences éthiquement parlant c'est pas ouf par contre les preuves expérimentales sont incroyables et ça m'avait dans un parcours où on t'apprend quand même que les 4 piliers de l'évolution, c'est voilà, c'est la dérive, c'est la sélection naturelle, c'est voilà, et puis que en fait de base, ça se fait sur les caractères pas acquis quoi. Ouais, ça c'était un peu fou, ça m'a un peu bouleversé. Donc tout ça pour dire que je pense qu'un shift, oui, en 6 heures, ça peut arriver. Si, mais bon, il faut un concours de circonstances, je dirais. Il faut que ce soit le truc qui matche l'attrait d'une des personnes en face. Mais il suffit, je pense, d'une phrase ou d'un truc qui peut, je pense, te bouleverser. Enfin, j'ai que mes exemples perso, quoi. Donc, mais bon, j'imagine que c'est quand même généralisable. Faudrait, en fait, ça pourrait se regarder facilement. Hein, faudrait demander à plein de gens s'ils ont déjà eu des bouleversements dans leur système de pensée par les enseignements universitaires qu'ils ont pu avoir ou pas universitaires d'ailleurs. Et j'espère que la réponse est oui pour un grand nombre de personnes. Donc voilà, et la deuxième aspect de la question c'était est-ce que c'est suffisant pour transmettre des outils 6 heures la réponse est ça dépend. En fait, moi ce que j'ai fait dans mes enseignements, j'ai fait le choix délibéré de survoler plein de choses, même s'il y avait peut-être des outils sur lesquels je passais un peu plus de temps. Donc moi mon objectif pédagogique, en tout cas avec les étudiants de master, hein, mon objectif était d'attiser la curiosité. Je crois que c'était ça mon objectif principal. Et donc du coup de ratisser quand même assez large et de montrer plusieurs outils et un peu différentes thématiques. Donc il n'y avait pas une vocation vraiment de transmission d'outils à proprement parler. Et je pense que sinon, par contre, en 6 heures, je pense que faire une séquence pédagogique, même en moins de 6 heures, sur la transmission d'un outil un peu ciblé, je pense que oui, ça se fait. Et à mon avis, il doit même y avoir de la littérature là-dessus. Et je pense qu'il y a même des il doit y avoir des séquences pédagogiques sur le site du Cortex qui ont dû être réévalués ensuite par Denis sur la transmission de certains outils où je pense qu'en moins de 6 heures, ça se fait, ça s'enseigne et ça se remobilise sur d'autres sujets. Je crois ne pas me tromper en disant ça, faut à vérifier, donc je pense que ça se fait. Moi c'était pas trop... j'ai pas fait vraiment beaucoup... Enfin avec les profs on l'a fait un peu plus, des ateliers où on discute vraiment des outils, comment les remobiliser et tout, et on les fait travailler ensemble. En tout cas les cours à l'université avec les étudiants de M1 et de M2, mon objectif pédagogique c'était pas la transmission d'outils pour être remobilisé dans d'autres contextes. Alors que, effectivement, on sait que c'est un des enjeux importants de l'esprit critique, quoi, pour la diffusion des outils, de recontextualiser dans d'autres, sur d'autres sujets.
La stratégie, c'était plutôt de faire un cours très général pour.
Ouais, c'était plus ça. Mais bon, je peux pas montrer que c'est efficace. Enfin, disons que, ouais, c'était sans doute intéressant, quoi. Enfin, j'ai eu quand même quelques retours d'étudiants qui m'ont dit que c'était hyper intéressant. Et voilà, enfin moi pas directement en plus, c'était plus mon collègue qui organisait le cours qui avait eu des très bons retours et tout, mais c'est une chose de réussir à faire un cours intéressant. Je pense que c'en est une autre de transmettre des outils précis, remobilisables et tout quoi. Mais ouais, mon objectif c'était plus ça, et bon il y avait quand même une volonté d'autonomie derrière quoi, de... Voilà, on a 2 heures, on a 4 heures, on a 6 heures. J'essaie de montrer des choses et si les gens derrière peuvent voler de leurs propres ailes pour aller. Enfin, je veux dire, en plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup ça dans les enseignements universitaires. Ce côté de. On donne un certain nombre de choses et après les gens font le travail de leur côté. Donc, ouais, voilà. C'est vrai que mon objectif pédagogique, c'était plus ça.
Moi j'ai plusieurs fois entendu quand je parle d'esprit critique ou de zététique à des gens qui découvraient le mot zététique par exemple, que ça servait à rien parce que si tu as fait des études scientifiques, normalement la science et l'esprit critique c'est la même chose et donc enseigner l'esprit critique ça ne sert à rien parce que si tu as fait des études tu l'as déjà. Moi je suis pas d'accord avec ça. Hein.
Moi non plus, mais en fait je pense que en théorie cette affirmation devrait sans doute être vraie, mais même pas que dans les études scientifiques. Je pense que dans le cadre de l'apprentissage de manière générale, parce que en fait, je crois que toutes les connaissances qu'on nous enseigne à un moment donné, que ce soit de l'histoire géo ou peu importe, on pourrait nous les apprendre sous l'angle de comment on a su ça. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, on enseignerait un peu d'épistémologie, un peu de ouais, comment se construit le savoir, comment s'est construit la connaissance, qu'est-ce que c'est une preuve, etc. Donc en fait, indépendamment du fait que ce soit de la science ou pas qu'on aurait fait, on arriverait à la fac ou à je sais pas à quel niveau avec, effectivement, si on a appris comment se sont construits les savoirs sur lesquels on a travaillé, etc. à un moment, je pense que là, ouais, on aurait peut-être pas besoin, et encore je suis pas sûr, mais en tout cas on aurait sans doute moins besoin de cours de méthodologie, on va dire, scientifique, par exemple. Puisque a priori on saurait ce que c'est. Mais bon, je pense que c'est pas le cas. Enfin, en fait, sinon nous on ferait pas ce qu'on fait déjà, je pense. Pour revenir du coup juste à l'affirmation, je crois que l'accent n'est pas mis sur l'esprit critique, même sur la méthodologie. En fait, si on parlait d'esprit critique, je pense que parler juste de méthodologie scientifique, comment on construit le savoir et tout, on n'a pas de cours là-dessus. On n'en a pas. Au lycée, on n'en a pas au collège, on n'en a pas encore moins en primaire, mais en fait, on n'en a même pas à la fac. En fait, ouais, je pense qu'on arrive en master, on a une vague idée de comment se construit la connaissance, quoi. Malheureusement. Donc, j'avoue que je suis plutôt en désaccord avec les gens qui affirment ça, même si, au final, je pense que, oui, en théorie, on pourrait imaginer un monde dans lequel on tendrait vers ça, et je pense que ça pourrait être super. Ouais, non, je pense que c'est très, 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 très loin d'être le cas. Et comme disent les collègues, oui, il faut enseigner l'esprit critique dès la primaire, quoi. Sur plein de sujets, je pense qu'il faut aussi il faudrait des cours de méthodo, d'épistémo, moins vider les savoirs de leur substance, je pense. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ça ce qui se passe, quoi. C'est, tenez, on vous met ça sur un plateau et... Servez-vous, c'est la connaissance, ouais, vous inquiétez pas. Cherchez pas à comprendre comment on a su.
On finit par avoir une relation de croyance en la science, alors que c'est ce qu'on voudrait éviter en démarche sceptique.
Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est un rapport de croyance qu'on a, mais je pense qu'en tout cas, on n'a pas un bon. On a un rapport qui. Ouais, peut-être de croyance ou d'opinion. Je pense que ça doit. Peut-être que tu as raison. Peut-être que ça contribue à faire en sorte que les savoirs qu'on peut nous enseigner au collège ou quoi ne peuvent passer que pour des opinions parmi d'autres, au final. Peut-être que ça peut contribuer. Ah ça ouais. Enfin en tout cas ouais, je pense qu'on a un rapport. Du coup le rapport au savoir est pas. Enfin je trouve qu'on perd toute la puissance du truc quoi. Enfin je pense que c'est ça la beauté de la méthode scientifique hein, utilisée pour acquérir n'importe quel savoir, hein, que ce soit de l'histoire géo ou que ce soit n'importe quelle discipline. Je trouve que la beauté du truc c'est vraiment ouais comment on a su quelle méthode on a déployée pour en savoir plus. À tel moment donné, comment on a pu conclure ça et comment on a pu croiser peut-être même différentes disciplines pour corroborer le truc. Et en plus, c'est réfutable derrière. Non, mais enfin, c'est-à-dire, on n'est pas à l'abri que voilà, qu'il y ait des nouveaux éléments qui viennent se rajouter, qu'on en sache plus, qu'on déconstruise le truc. Enfin, je veux dire, c'est ça, je pense, un des problèmes aussi qui me manque à ne pas avoir la méthode, c'est qu'on a l'impression que c'est un truc figé, les savoirs qu'on nous propose. Et je pense que ça, c'est un gros problème, parce que je pense que la puissance du truc, c'est que ça ne l'est pas, quoi. C'est pas figé, c'est vraiment un truc en construction dynamique, autocorrectif. Enfin, je veux dire, on loupe tout un tas d'avantages énormes de la méthode scientifique et de la construction du savoir. Ouais. Je crois qu'on ouais, on se prive d'un truc que je trouve ouais, vraiment fou, quoi.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que le même problème se retrouve dans les outils qu'on utilise en zététique, des outils qui viennent de psychologie sociale. Ces outils ils sont vulgarisés et bah, j'ai l'impression qu'ils tombent aussi un peu du ciel comme étant des connaissances figées à avoir dans cette discipline floue qu'est la zététique. Peut-être un peu moins que dans d'autres disciplines parce que du coup on est. Ouais, peut-être plus conscient que les savoirs ont été construits et qu'il faut les historiciser, tout ça, mais j'ai un peu cette impression-là quand même.
T'aurais un exemple d'outil en particulier ou...
Je sais pas, par exemple, les expériences de Milgram, on en parle souvent.
Ouais, c'est
Et
vrai.
en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut l'entendre en résumé dans des fois des vidéos qui durent 10 minutes. Il y a beaucoup à creuser là-dessus. C'est une expérience qui est vieille. Elle a été répliquée pas mal de fois, mais on parle très peu de ses réplications
Ouais.
et des nouvelles conclusions
Sans
qu'on peut en
succès
tirer.
en plus, non, d'ailleurs.
Il me semble, ouais, c'est pour ça.
Ouais.
Il y en a pas mal des exemples comme ça, je crois.
Ouais, alors j'avoue que je les connais pas tous, mais de manière générale, ouais, je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis et qu'il y a des choses qui sont un peu ouais, vidées de leur substance et on garde que ce qui nous arrange, entre guillemets, je sais pas, mais on garde ouais, l'outil qui va bien et n'importe quel outil, quand il est vulgarisé, on oublie les limitations peut-être. Je pense que en fait, n'importe quel outil, n'importe quelle méthode vient avec des limites qu'il faudrait expliciter aussi, quoi, et avec sans doute un contexte historique et tout. Ouais, peut-être qu'on y gagnerait, mais j'avoue, j'ai pas trop d'autres exemples comme ça.
Ben, j'en avais un autre, je me rappelais, j'avais lu un super article qui remettait le contexte sur l'effet Dunning-Kruger.
Ah oui.
Parce que moi, quand j'avais découvert ça, je l'ai tout de suite interprété, tu sais, comme, enfin, sous une forme de graphique en vague. Et en fait, ben, j'ai vu l'article qui décrivait l'expérience originale. Et c'est pas du tout des vagues, en fait. Le schéma de Dunning-Kruger ne ressemble pas du tout à ça.
Je vois pas à quoi il ressemble le schéma.
Ben, en fait, c'est quand tu découvres un sujet, tu te penses expert. Et
Ouais.
après, quand on apprend un peu plus dessus, là, tu gagnes en humilité et du coup, tu te penses pas expert. Puis après, quand tu es vraiment expert, bah, tu te penses expert.
Ah
Et
oui,
ça
c'est
fait une
ça.
vague comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Moi, je vais pas le vulgariser en direct parce que je pense que je vais dire des conneries.
Enfin, du coup, le contenu d'expérience, je connais pas, mais oui, c'est les gens qui se pensent le plus avoir la plus grande expertise sont en fait en réalité ceux qui en savent le moins, non? Non, c'est ceux qui c'est inverse. Ceux qui en savent le moins surévaluent leurs connaissances, c'est
C'est ça,
ça?
ouais. Mais les gens qui en savent beaucoup plus qu'eux se pensent quand même plus confiants que les gens qui n'en savent rien, mais ils
C'est
se
ça.
sous-évaluent quand même. Donc c'est pas pour dire que les experts sont moins confiants que les gens qui sont pas
Ouais, c'est
experts.
ça. Et juste, ils sous-évaluent leur niveau de...
Donc selon les vulgarisations de l'effet de Dunning-Kruger, des fois on dit n'importe quoi, mais il fait dire ce qu'il dit pas quoi.
Ouais, je vois. Ouais, mais en fait, je pense que c'est généralisable à même à tous les discours scientifiques de manière générale. Là, en plus, du coup, ça fait écho à un bouquin que j'ai commencé à lire il y a pas longtemps qui s'appelle Militer pour la science de Sylvain Laurence. C'est un peu une histoire des mouvements rationalistes en France et tout. Et j'en suis qu'au début, et c'est une approche sociologique. Et là, en fait, au début, il a donc. Après, ce que j'ai cru comprendre, il théorise un peu ce genre de choses en disant qu'en fait, un argument scientifique ou un discours scientifique qui se retrouve dans le débat public ou dans le discours politique, il est en fait déjà vidé de sa substance parce que il est plus dans le cadre de la production du savoir, il est plus soumis au même, tu vois, au contrôle par les pairs, au contre-argument par la sphère scientifique. Donc en fait, il est vidé, il est mis dans le débat politique, donc sans être des fois modifié, quoi. Hein. Des fois, bon, c'est juste repris, modifié, mal interprété et tout, mais même des fois, quand il est juste posé tel quel et qu'il est bien, bah, en fait, il s'expose pas aux mêmes critiques et donc du coup il n'a pas la même validité. Je sais pas si c'est validité, c'est pas vraiment ça qu'il dit, mais il peut plus facilement être galvaudé, mal compris, etc. Et après il donne des exemples d'arguments qui étaient des arguments scientifiques un peu en fait à la pointe à un moment donné. J'ai plus les exemples en tête, mais qui étaient quand même assez controversés dans la sphère scientifique, qui se sont retrouvés dans la sphère publique ensuite. Surévalué un peu, quoi. En mode, c'est l'argument principal sur le sujet. Enfin, et il n'y avait aucune opposition en face, alors que dans le cadre du débat scientifique, c'était un argument qui était très controversé, etc. Je sais pas si j'ai bien expliqué le truc, mais. Donc, du coup, ça me fait penser à tous les outils dont tu parles et tu dis. Enfin, et quand moi je disais tout à l'heure que. Les choses étaient un peu vidées de leur substance, bah, je pense que c'est un peu le cas partout, tout le temps, quand on se retrouve avec des choses issues de la méthode scientifique et issues des savoirs collectifs et tout, quand ça se retrouve dans le vulgarisé pour le grand public, etc., ouais, on s'expose au risque que ce soit vidé de sa substance et du coup mal compris, mal réutilisé, mal approprié. Enfin, je veux pas être fataliste, mais je pense que c'est inhérent au truc, quoi. Je pense que c'est voué à être comme ça. Alors après, on peut faire des progrès en mode beaucoup plus mettre l'accent sur les limites de tel et tel outil, de comment ça a été construit, dans quel cadre, etc. Et donc beaucoup mieux en parler, etc. Et aussi, quand on se rend compte qu'un outil a été mal utilisé, faire son mea culpa, je pense, revenir et voilà. Ce genre de truc, mais ça me semble inéluctable, quoi. Je pense que si on parle de science, enfin, si on utilise des outils de la science et tout, forcément ça va générer des erreurs à un moment, quoi. Et des petites omissions et des trucs, donc. Mais bon, ça veut pas dire qu'on peut pas changer les choses, quoi.
Ouais, en plus, dans une communauté qui s'estime quand même scientifique, la communauté zététique, c'est d'autant plus dommage que des données issues du monde scientifique se retrouvent vulgarisées d'une mauvaise manière. On serait censé les prendre de la meilleure manière qui soit, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair, mais ben, c'est le cas de la, ouais, dans la communauté sceptique. C'est aussi le cas, je pense, dans la. Je crois qu'on voit quand même souvent des approximations dans les journaux scientifiques, je crois, de vulgarisation scientifique. Il y a quand même beaucoup d'erreurs, hein, même parfois des approximations et tout. Et oui, du coup, c'est particulièrement paradoxal, peut-être, quoi. Je veux dire, normalement, c'est de eux qu'on attend qu'ils vulgarisent le mieux les outils, du coup pour la sphère zététique ou la science pour les journalistes scientifiques, et on retrouve quand même souvent des approximations et tout. Du coup, il faudrait un truc qui serait intéressant à regarder peut-être, c'est qu'est-ce que ça représente, ce taux d'erreur, on va dire. Est-ce que c'est vraiment le cas de tous les outils? Est-ce que c'est que certains outils qui sont à un moment donné mal vulgarisés, si on peut dire, mal réutilisés, etc. Ou est-ce que c'est après un certain nombre d'utilisations? Enfin, ce serait marrant de savoir quel est le taux d'erreur et est-ce que c'est vraiment énorme ou pas? Parce qu'en fait, si ça se trouve, enfin, et je pense, hein, que la plupart des journalistes scientifiques font bien leur taf et peut-être qu'on remarque que les erreurs, tu vois, comme un peu un gros biais de confirmation. Et pour les outils, la sphère zététique et tout aussi, peut-être pareil, je pense que C'est un peu aussi ça le processus de relecture par les pairs, hein, finalement. C'est juste que ça me semble des fois un peu... C'est un peu plus... en fait, c'est quand même très violent des fois quand tu te prends des remarques des reviewers, mais dans la sphère, on va dire, sceptique ou journaliste et tout, je pense que des fois, ça peut faire mal, quoi, de se rendre compte qu'on a fait une erreur et que les gens nous fassent prendre conscience qu'on a fait des erreurs et tout.
Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, dans la thèse de Richard Monvoisin, il parle du dévoiement de la science dans les journaux scientifiques, les journaux de vulgarisation scientifique comme Science et Vie et tout ça, que eux organisent sous prétexte qu'il y aurait une demande sociale pour une science fun, pour une science mise en scène. Et que du coup, ça serait une prophétie autoréalisatrice parce qu'ils disent ça alors qu'ils n'en savent rien. Mmh. Du coup, ils mettent la science en scène de façon plus ou moins bancale, plus ou moins solide. Mmh. Et du coup, les gens pensent que c'est ça la science. Et du coup, c'est ça qu'ils demandent. Et du coup, les journaux répondent à ça.
Ouais, okay.
Voilà. Est-ce que on a le phénomène analogue dans la communauté sceptique de vouloir vulgariser des outils complexes pour l'esprit critique et finalement les dévoyer, quoi.
Finalement les dévoyer et après attends, c'est quoi la suite de la boucle? Parce que dans ce que tu dis sur la vulgarisation, on a les gens qui demandent, parce que ouais, il y a aussi ça, il y a l'aspect, est-ce que c'est ce que les gens demandent? Est-ce que les gens demandent des outils aussi un peu?
Est-ce qu'ils demandent des outils? Est-ce qu'ils demandent des outils faciles à s'approprier? Ou alors est-ce qu'ils demandent vraiment le fond du fond scientifique?
Ouais, voilà, ouais. C'est une très bonne question. Je sais pas si j'ai la réponse. En fait, je pense que ce qui est analogue, c'est qu'on ne doit pas savoir grand-chose de la demande. Je pense que dans le cas des lecteurs de journaux scientifiques, faudrait regarder si les gens demandent de la science fun ou pas. Et dans le cas de la vulgarisation d'outils, on va dire synthétiques et sceptiques, je ne sais pas ce que les gens attendent. J'avoue que j'aurais même du mal à... Est-ce que... Enfin, c'est vrai que nous, on vend notre truc en disant que... ce qu'on va donner aux gens, c'est des outils facilement appropriables et facilement réutilisables. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'on fait l'hypothèse que c'est ce que les gens veulent, mais en tout cas, c'est ce qu'on leur donne, quoi. Et puis, d'un autre côté, si on disait, ouais, bon, vous donnez des outils hyper difficiles à appréhender et vous ne pourrez jamais les réutiliser, faites-en bon usage. Ce serait un peu bizarre. Donc, mais bon, qu'est-ce que veulent vraiment les gens? Pas la même chose en fonction des gens. Mais bon, je pense qu'on y gagnerait à faire de la qualité de manière générale. Donc, comme je disais avant, je pense que quand on vulgarise des outils, je pense que essayer de faire attention le plus possible au contexte dans lequel ça a été produit, le contexte dans lequel ça a été utilisé, les limites de cet outil. Je pense que tout le monde y gagnerait parce que, en fait, quand on vulgarise un outil, qu'on le vulgarise mal et qu'on s'adresse à plein de gens, le risque premier, je pense, c'est qu'il y ait plein de gens qui réutilisent mal l'outil, quoi. Donc c'est un peu... c'est risqué. Donc est-ce que je pense qu'il y a un dévoiement des outils? Je sais pas trop. Je pense qu'il y a plus un focus sur certains outils, je dirais. Mais bon, on en revient un peu à la question des sujets et tout, mais... Voilà, les histoires de biais cognitifs, les trucs comme ça, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup mises en avant, je trouve. Je sais pas si je parlerais de dévoiement vraiment, mais en tout cas, je crois qu'il y a des choses qui sont parfois pas très bien vulgarisées et que l'impact, alors une fois de plus, comment on mesure l'impact, surtout quand on est... Enfin déjà, c'est dur en classe de mesurer l'impact que peut avoir un outil ou un autre, etc. Alors du coup, quand on fait une vidéo sur YouTube ou un article, vas-y, va mesurer l'effet, l'efficacité du truc et tout. Mais bon, je pense qu'on y gagnerait à parler plus des limites du cadre, etc. Forcément, en fait, on y gagne, je pense qu'on y gagne toujours à parler de ça. Mais bon, d'ailleurs, si je peux faire un parallèle, c'est un avis perso, mais moi, quand j'écris des articles scientifiques, donc je mets toujours une partie limite à la fin. Et souvent mes co-auteurs, et notamment ma boss, récemment, avait tendance à me dire que c'était un peu trop long. Mais bon, c'est juste qu'il y avait plein de limites, quoi. Il y avait plein de limites aux méthodes qu'on utilisait, tout ça. Et le processus de publication tel qu'il est aujourd'hui fait qu'en vérité, on ne peut pas vraiment trop mettre en avant les faiblesses d'un article. Il vaut mieux mettre en avant plutôt ses forces, quoi. Et donc, du coup, je pense que ça contribue un peu à un appauvrissement de. Enfin, je sais pas si c'est un appauvrissement de la connaissance, mais. Enfin, j'avoue que j'ai tendance à penser qu'en connaissant les limites de chaque outil et les limites de chaque connaissance produite, etc., le contexte dans lequel ça a été produit, ben, en fait, ça lui donne beaucoup plus de robustesse parce que tu sais exactement dans quel cas tu peux le réutiliser ou pas, avec quelles limites, etc. Pour moi, c'est essentiel de mettre en avant ce genre de choses. Donc, que ce soit dans un cadre, voilà, dans les journaux scientifiques, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le temps de parler, enfin, surtout, non, ils n'ont pas du tout le temps de parler des limites des productions des connaissances. Nous, dans notre taf de chercheurs, c'est évacué gentiment. Mais je pense que par contre, ouais, dans des tafs de vulgarisation, on peut se permettre de le faire. Et donc, en fait, je pense qu'on gagnera à le faire.
Petite interruption car je dois changer les piles de mon micro. Pendant ce temps, je propose à Alexandre de continuer sur le sujet du dévoiement de l'esprit critique en parlant de l'article La grande braderie de l'autodéfense intellectuelle, publié par le collectif Cortex en 2017, que vous retrouverez en description.
Bah, en fait, je crois que ce qui est abordé dans ce texte, c'est un peu ce dont on a parlé un peu au long de l'interview, non? Globalement, il y a quand même.
Ouais, alors les thématiques principales de la grande braderie de l'autodéfense intellectuelle, c'était formulé comme ça, qu'il y avait une armée de zététiciens prétendument apolitiques
Ah
qui étaient nouvellement formés par la vulgarisation de la zététique sur les réseaux sociaux, que les zététiciens ne faisaient pas gaffe à qui ils invitaient dans leurs médias et qu'ils ne faisaient pas gaffe non plus aux invitations qu'ils acceptaient. Par exemple, aller diluer l'esprit critique sur des plateaux télé ou inviter des gens de droite sous prétexte de foutre de la zététique partout. Et que du coup, il y avait un problème de vulgarisation parce que si on saupoudre de la zététique partout, finalement, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et est-ce qu'on n'est pas en train de former des gens qui utiliseront mal les outils?
Ouais, donc alors moi j'ai pas participé à la rédaction de ce texte parce que c'est au moment où j'ai rejoint le Cortex en fait. Mais enfin je me souviens en fait ça a été publié, oui en fait j'étais en train de faire mon stage de M2 et je commençais à travailler avec le Cortex. Du coup là il y a plusieurs ça recoupe plein de choses dont on a parlé l'aspect de saupoudrer un peu partout d'esprit critique et au final on n'apprend pas grand-chose. Je pense que ça rejoint un peu les questions de bah, qu'est-ce qu'on fait dans les formations et comment on fait pour enseigner des outils. Et je crois que effectivement les cours, les formations, ce genre de trucs et aller au contact en fait des gens, ça me semble être le lieu principal pour la transmission des outils plus que des vidéos ou peut-être des articles où j'ai l'impression que la transmission se fait de manière plus superficielle. Après, franchement, je peux me tromper. Ouais, voilà, ça c'est le premier point. Après, c'est vrai que j'ai eu un moment cette impression qu'il y avait. Bah, en fait, il y a eu un moment, de toute façon, où clairement, il y a eu un engouement pour la zététique et l'autodéfense intellectuelle. Effectivement, ça a été un peu à la mode. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des vulgarisateurs et des gens qui ont fait un peu tout ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu un emballement de fou, quoi. Et donc, peut-être que les gens ont été pris un peu dans l'engrenage à en faire un peu partout, tout le temps. Voilà, sans trop se poser de questions, parce qu'en fait, oui, peut-être que les gens partaient du principe que bah, juste bah, c'est trop bien de pouvoir faire de la pensée critique, et donc on y va tout le temps. Et sur l'aspect un peu média, qui on invite, qui on reçoit, tout ça, y a deux ou trois choses que je voudrais dire. Nous, par exemple, à l'Asso, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu trop d'interventions médiatiques. Mais avant, ouais, voilà, on avait une algo pour, enfin une petite algo, une petite recette à suivre, quoi, pour se dire est-ce qu'on va intervenir ou pas dans le média ou dans le machin si on reçoit une invitation. Et des questions du type, bah, en fait, combien il y aura de détracteurs, ça va être quoi le format, est-ce que ça va être recoupé ensuite, Est-ce que je vais pouvoir développer un argumentaire assez long, etc. Enfin, parce qu'il y a certains médias, notamment la télévision, qui sont peu propices à développer des argumentaires, surtout si c'est des argumentaires pour des positions pas dominantes, je pense. Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'on le sait, quoi. C'est, je veux dire, c'est pas propice, tu te fais couper la parole toutes les 5 minutes, enfin, je veux dire, tu te retrouves avec 5 personnes qui sont pas d'accord avec toi, et le public acquis à leur cause, pas sûr que ce soit un super cadre, quoi, de débat, d'idées. Donc oui, c'est vrai que nous, on se pose la question de, voilà, est-ce que... quel coût ça a et quel bénéfice on va apporter. Mais l'autre côté de ce truc-là, c'est, une fois encore, c'est comment on mesure le bénéfice d'une intervention. En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects avec ça, et j'avoue que intimement, j'ai l'impression que c'est pas top d'aller dans n'importe quel média à tout bout de champ et de juste sous prétexte de pouvoir diffuser de l'esprit critique. Donc un argument que je trouvais assez pertinent par rapport à ça, c'était de dire que s'il y a des médias qui sont bien d'accord pour te laisser parler d'esprit critique, c'est que a priori tu leur fais pas de défaut, quoi, tu leur tapes pas trop dessus d'un côté. Quand tu vas dans des médias clairement pas de ton bord politique ou qui défendent des valeurs très conservatrices, etc., par exemple, et que voilà, ils te donnent une pastille mensuelle, par exemple, c'est qu'a priori, ouais, tu leur tapes pas trop dessus et que tu leur rapportes même sans doute des lecteurs, tout ça. Enfin, ça, et en plus, ils peuvent sans doute se donner ils peuvent tirer une certaine légitimité de ton intervention chez eux, quoi, d'avoir bien voulu venir. Donc, mais un peu de la même manière que, au final, ce qui peut se passer avec les thématiques de d'OGM ou de quoi que ce soit, hein, ça te positionne sur l'échiquier politique, et des gens après peuvent se servir de ce que tu as dit pour légitimer ce qu'ils font ou pas. Donc, dans le cadre des débats OGM, anti-OGM, etc., certains discours de certains zététiciens peuvent être réutilisés par des grosses boîtes industrielles. Voilà, enfin, peu importe ce qui est dit, c'est que voilà, ça, par moment, ça les place de leur côté et ça apporte une légitimité scientifique, etc. Certaines personnes, certains discours. Dans le cas des interventions médiatiques, je pense que c'est un peu pareil ce qui se joue, quoi, au final. Hein, c'est potentiellement, on donne du crédit à ce média en y allant et eux, ils vont se servir de notre aura pour se donner une légitimité. Voilà, ça, je trouve que c'est un bon argument pour se dire de ne pas aller quelque part ou pas, mais l'argument, je crois, qui a été opposé plusieurs fois sur ces questions-là, et du coup, je pense que c'est impossible de répondre, c'est que c'est le côté, ok, bah alors, du coup, on se pose la question de est-ce qu'on y va ou pas, mais si je n'y vais pas, qui y va à ma place? Et que si c'est pas moi, par exemple, Alexandre Changenet, je suis invité à parler dans je sais pas quel. Sur Sud Radio, par exemple, admettons, pour parler de je sais pas quel sujet, a priori, c'est pas trop un média dans lequel j'aurais envie d'aller. Si moi j'y vais pas, qui on va mettre à la place et qu'est-ce qu'il pourrait dire de pire ou de moins bien, quoi. Enfin, donc, du coup, c'est un peu ça l'argument, je crois, qui nous avait été rétorqué à l'époque, c'était de dire oui, mais en fait, si nous on n'y va pas, on n'accepte pas d'aller dans ce média. Est-ce que c'est mieux que la politique de la chaise vide, quoi, et de dire bah en fait non, je n'y vais pas, mais en fait tu peux te retrouver avec quelqu'un de pire qui en fait va passer des arguments qui seront peut-être bien pires que ceux que tu aurais pu défendre. Et voilà, mais bon, le fond du problème au final, c'est que donc, on peut pas trancher entre ces deux positions. Enfin, je pense qu'on peut pas vraiment trancher parce qu'on n'a pas les moyens de savoir, quoi. On n'a pas les moyens de quantifier l'impact d'une intervention médiatique. C'est à mon avis extrêmement compliqué. Alors, après, on peut avoir peut-être les audiences et tout, donc tu voilà, mais on ne sait pas comment ça va être reçu. Et puis même, je suis en train de penser à ça là, mais je sais que les débats télévisés entre candidats au présidentiel, a priori, du coup je mets des grosses guillemets parce que j'avais pas trop tif, mais il me semble qu'il y avait des études qui montraient que mettre en scène des débats politiques et tout ne faisait, même s'il y avait des grosses audiences, faisait a priori pas trop changer les gens d'opinion. Donc bon, je sais pas ce qu'on peut vraiment tirer de cette information dans le cadre d'interventions médiatiques de trucs zététiques, mais je suis pas sûr que ce soit, en fait, si ça se trouve, un très bon moyen de passer des contenus d'esprit critique. Puis je pense qu'on ne peut pas vraiment mesurer l'efficacité du truc. Donc, mais bon, je pense que il faut se poser la question, quoi. Enfin, faut avoir conscience que, voilà, je pense que c'est ça le truc, quoi. C'est toujours une question de limite au final. Je pense qu'il faut se dire que, bah, en fait, en m'exposant dans tel média, je vais leur donner du crédit. Ils vont pouvoir dire que j'y étais, j'aurais donné de la légitimité, etc. Et essayer tant bien que mal de quantifier les impacts que ça pourrait avoir, puis décider si on intervient ou pas. Et après, à partir de là, je pense qu'il y a plein de stratégies qui sont possibles. Il y a des gens qui voilà, interviennent dans tous les médias possibles. Enfin, je sais qu'il y a des gens, par exemple, je sais qu'à une époque, Bricmont, et du coup, lui, il a été, je crois, beaucoup critiqué. Enfin, je sais qu'en plus, ça fait un peu débat et tout, sa position. Mais lui, sa position là-dessus par rapport aux médias, c'était de dire je vais dans tous les médias, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, du coup, il s'est retrouvé sur pas mal de médias d'extrême droite et tout, quoi. Et bon, nous, notre position n'était pas celle-là. En fait, nous, on passait dans assez peu de médias. J'avoue que nous, on a plus joué une carte de... On joue plus une carte de prudence, je pense. Je pense que c'est très compliqué de trancher cette question de savoir vraiment... voilà, ouais. En fait, la balance coût-bénéfice, elle est assez complexe à évaluer, je pense, dans le cas des interventions médiatiques. Mais c'est vrai que moi, ce qui fait pencher la balance, dans mon cas... J'avoue que ça me fait un peu réfléchir quand même, ce côté on donne du crédit aux médias en y allant, quoi. Et des fois, juste, t'as pas envie de donner du crédit à un tel truc, quoi. Donc c'est ça. Et je pense que l'autre aspect, c'est je suis assez convaincu que c'est pas comme ça qu'on va donner massivement des outils. Enfin, c'est pas en faisant des interventions par-ci par-là à la télé qu'on va former massivement les gens à la pensée critique, quoi. Je pense que le cœur du truc, c'est dans le système éducatif que ça se joue, quoi. Je pense.
Mm-hmm. Et là, vous êtes présent sur ce créneau. Et en particulier, la question de YouTube, je suppose qu'elle s'est posée au Cortex. Autant je comprends parfaitement de ne pas aller chez Hanouna. YouTube, je comprends aussi les raisons. Mais je trouve que ça pose plus question. Parce que sur YouTube, on peut faire des vidéos hyper soignées de une heure, il n'y a aucun souci. Mon voisin a publié ses cours dessus qui servent à beaucoup de monde.
Ouais, mais c'était une très bonne chose.
Pourquoi le Cortex n'est pas sur YouTube? Sans vous dire, vous devriez être ou quoi?
Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai pas eu vraiment... Moi, en interne, j'ai eu souvent des débats sur les réseaux sociaux, plutôt. Sur Facebook, Twitter, etc. Donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées, qu'on s'est longtemps posées, voilà. Mais pour YouTube, je ne sais pas. Je crois que moi, j'en ai jamais parlé avec les collègues, mais je pense qu'une des raisons, c'est qu'on n'a pas trop de choses à mettre sur YouTube, hein. Enfin, les seules choses qui ont été sur YouTube, c'est du coup... Richard, c'était au moment où il quittait le Cortex, donc je crois pas qu'ils sont estampillés Cortex, ces cours de l'université. Mais par contre, on met en ligne, je crois que notre politique, c'est quand même de mettre en ligne certains contenus, quoi, des cours qu'on fait. Alors après, ils sont pas tous filmés, malheureusement, enfin, il y en a très peu qui sont filmés, mais sur YouTube, on peut retrouver quelques interventions. Je crois qu'on doit pouvoir trouver une intervention de Albin Guillot, par exemple, qui parle du RIC. On doit pouvoir trouver peut-être une intervention de Gladys sur la sophrologie caissédienne, je crois. On doit pouvoir trouver quelques trucs par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est pas automatique qu'on filme nos interventions et tout, mais donc je ne sais pas trop. Et après, on fait aussi une autre, enfin, je sais pas si c'est vraiment une raison, mais nos cours, par exemple, il y a Jérémy et Denis, donc, qui ont fait des cours à Nîmes là cette année. Ils ont une UE à l'université à Nîmes. Et je crois qu'il y a certains de leurs cours qui ont été filmés. Et donc je crois que ça n'a pas été mis effectivement sur YouTube, mais on les donne à la demande. Et en fait, Jérémy, il me semble qu'il a mis deux de ses cours qui avaient été un peu retouchés et tout. Ils sont sur la plateforme Skepticon, je crois. Donc pourquoi pas YouTube? J'avoue que je crois vraiment pas en avoir jamais discuté avec les collègues. Mais je pense qu'une des raisons aussi, hein, c'est quand même que c'est pas vraiment notre créneau, quoi. Enfin, en fait, quand il s'agit de filmer des cours et tout, je crois qu'on est assez OP pour, quand il y a des interventions filmées, de les mettre, hein, de les diffuser très clairement. Mais c'est vrai que vu que notre corps d'intervention, ouais, c'est plus aller dans les lycées, aller dans faire des formations, des trucs comme ça, je pense que nos contenus se prêtent moins. Enfin, je veux dire, sur le site, on partage des séquences pédagogiques, voilà, on fait de la formation et tout. Donc, YouTube n'est pas un média, un moyen de communiquer privilégié pour nous, quoi.
Ouais, je vois. Pour finir, est-ce que tu as un message super important à passer ou des recommandations de lecture ou ce que tu veux ?
Ce que je veux, des recommandations de lecture. Récemment, j'étais en train de rédiger ma thèse, donc au niveau lecture, j'ai pas lu des masses de trucs intéressants. Par contre, j'ai écouté un podcast. Il y a deux podcasts que j'ai trouvé super récemment. Je peux peut-être parler de ça.
Ouais.
J'ai écouté le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, qui a fait Les couilles sur la table, qui est vraiment vraiment très génial. Et Les couilles sur la table, c'était super aussi d'ailleurs. Vivement qu'ils refassent des épisodes si elles en font. Je crois que récemment, c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé écouter. C'est toujours cool, je trouve. J'ai écouté un podcast très sympa très sympa, pas du tout sympa. C'est Les pieds sur terre c'est Sonia Kroning qui fait ça, je crois, sur France Culture. C'est des reportages de 20-30 minutes. Et là, il y en a eu un il n'y a pas longtemps sur le consentement médical, qui est effectivement, comme je disais, pas sympa du tout, et qui est assez horrible même, mais qui était hyper cool. Eh bien, ouais, si, y a un podcast que je trouve trop bien en ce moment, ça sort pas trop régulièrement, c'est tous les mois, je crois. C'est Mécanique du journalisme, sur France Culture aussi. C'est vraiment très chouette. Voilà. Et donc, si j'ai un message très important à faire passer, comme dirait Richard, je pense, enseigner la pensée critique. Des 7 ans ou des 6 ans partout, dans toutes les universités, dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans toutes les écoles primaires, et se battre pour ça, parce que je pense que c'est un des moyens de nous émanciper, ouais, et de faire de nous des citoyens libres, je pense. Et je pense qu'il faut militer pour ça.
Un très beau message pour finir. Merci.
De rien, merci à toi.
Merci à Alexandre pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux, n'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse, ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine, et que le doute soit avec vous.